RFI 6h30 à Paris et Libreville 7h30 à Boutembo. L'heure du journal. Bonjour Édouard Dupénoat.
Bonjour. Deux convocations de police. La folle rumeur d'un refuge américain, le démenti de l'ambassade des États-Unis. Le Gabon est à la une de cette édition africaine. Hervé Patrick Opianga, toujours introuvable. Même ses avocats affirment ne pas savoir où se trouve l'ancien ministre. L'Union sacrée soupèse la moindre de ses virgules. La coalition de la majorité présidentielle en RDC, dont les principaux barons ne disent rien ou si peu sur la réforme constitutionnelle voulue par le président. Augustin Kabouya, soutien de cette réforme, est l'invité de RFI après ce journal. Le Congo-Brazzaville veut faire montre de brutalité contre les trafiquants d'essence. Le porte-parole du gouvernement met en cause des activités mafieuses pour expliquer les lourdes pénuries qui grèvent les stations de la capitale depuis plus d'un mois. À Bangui, la nouvelle vie des déchets plastiques, reportage avec des artisans malins et inventifs. Ils fondent les kilos et les kilos de plastique qui jonchent les rues pour les transformer en pavés. Le recyclage, ce n'est certes pas la panacée face au fléau plastique, mais faute de mieux, autant en faire quelque chose d'utile. Et puis, les premiers travaux du comité chargé d'écrire l'histoire générale du Niger, scientifiques et universitaires, vont déjà compiler tout ce qui a été fait sur le sujet. Un ancien ministre et homme d'affaires introuvable, donc, au Gabon, Hervé Patrick Opianga, ex-ministre des Mines de la Transition, sous le coup de deux nouvelles convocations de la police judiciaire, mais qui ne donnent aucune nouvelle. Ses propres avocats affirment ne pas savoir où se trouve l'ex-responsable. Il est sous le coup d'une plainte pour violence sexuelle. La rumeur s'est enflammée hier sur un possible refuge qu'il aurait trouvé à l'ambassade des États-Unis à Libreville, ce que les Américains Yves Laurent Goma ont tout de suite démenti.
Nous affirmons sans équivoque que ces rumeurs sont fausses, a martelé l'ambassade des États-Unis au Gabon dans un communiqué. L'affaire Opianga a éclaté le 20 novembre lorsque ce dernier a reçu une convocation de la police judiciaire. Il n'y s'y est pas présenté et aurait même ignoré une seconde plainte déposée à son domicile vendredi dernier. Il est désormais introuvable. Ses avocats disent ne pas savoir où il se trouve et les raisons de sa convocation. Selon Gabon Pro, la télévision nationale, l'ordre d'interpeller Hervé Patrick Opianga émane du procureur de la République à la suite d'une plainte pour violence, inceste, séquestration et usage de faux. Une plainte déposée par son beau-père qui l'accuse d'avoir abusé une mineure, notamment la fille de son épouse. Les proches de Hervé Patrick Opianga dénoncent de leur côté un harcèlement politique. L'ancien ministre a battu campagne pour le non lors du récent référendum constitutionnel. C'est bien une affaire des mœurs, a insisté la télévision nationale. Yves Laurent Goma, Libreville.
Une rencontre pour dénouer peut-être la lourde crise post-électorale qui secoue le Mozambique. Les quatre candidats à l'élection présidentielle contestée du 9 octobre doivent s'entretenir cet après-midi avec le président sortant Felipe Nyusi. Il a convoqué cette réunion pour tenter de résoudre une situation toujours très tendue, au moins 40 morts dans la lourde répression des manifestations. Les trois opposants veulent mettre sur la table la question de l'annulation du scrutin dont le candidat du Frelimo est toujours donné gagnant. Mais Venancio Mondlane revendique la victoire. Le débat sur une possible révision de la Constitution continue de secouer les milieux politiques de République démocratique du Congo et certains beaucoup plus discrètement que d'autres. Sans surprise, l'UDPS, le parti du président Tshisekedi, soutient ce projet de réforme. Le secrétaire général de la formation, Augustin Kabouya, est l'invité de RFI pour l'expliquer juste après ce journal. Plusieurs des alliés directs de l'UDPS se disent favorables, eux aussi. En revanche, au sein de l'Union sacrée, la plateforme de la majorité, on fait preuve de beaucoup plus de prudence. Les ténors eux-mêmes ne disent rien. Patient Ligaudier en expliquant pudiquement ne pas avoir été consulté au préalable.
C'est une affaire sensible, un terrain glissant qui pourrait emporter certains confient sous couvert d'anonymat à un baron de la coalition. Si révision, quels articles seraient concernés? Si changement, pourquoi et comment procéder? Félix Tshisekedi va-t-il briguer un autre mandat? Autant de questions qui suscitent des inquiétudes. Nombre d'entre eux redoutent ce qu'ils qualifient de suicide politique et appellent à des concertations au plus haut niveau de l'Union sacrée avant toute communication à leur base. Du côté de l'UN, de Vital Kamerhe, qui reste un acteur clé de l'Union sacrée, la prudence est démise. Certains cadres reconnaissent l'existence des discussions internes sur le sujet, mais aucune ligne claire ne semble encore définie. Quant au MLC de Jean-Pierre Bemba, une réunion s'est tenue hier lundi. Selon nos informations, aucune décision n'en est ressortie pour l'instant. Jean-Pierre Bemba a demandé aux membres de son parti d'approfondir la réflexion et de soumettre des propositions. Par ailleurs, des discussions informelles entre certains cadres de l'Union sacrée devraient se poursuivre lors de la conférence des gouverneurs prévue dans la ville de Kalemi du 27 au 29 novembre. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Une justice encore inadaptée, mal calibrée et insuffisante. Au lendemain de la journée contre les violences fondées sur le genre, l'ONG américaine Equality Now dégaine un rapport amer sur les réponses que les justices africaines apportent aux femmes victimes de violences. Apporte ou plutôt n'apporte pas, puisque l'organisation a disséqué les textes de loi de près de 45 des pays du continent pour conclure que les lacunes sont encore très nombreuses en matière de réponse pénale, de soutien aux victimes de violences et d'accompagnement dans les différentes démarches. Paul Lorgery.
Selon l'ONU Femmes, près de 33% des femmes africaines âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles de la part d'un partenaire intime. Une donnée bien en deçà de la réalité, insinue Equality Now. Les contraintes culturelles doublées de l'ostracisme auquel elles s'exposent, les décourageant souvent pour porter plainte devant les juridictions compétentes lorsqu'elles sont compétentes. Le rapport relève que toutes les formes de violences sexuelles ne sont pas reconnues par les codes pénaux des différents pays et que les peines prononcées ne sont parfois pas proportionnelles au mal engendré. L'ONG prend exemple sur la Guinée équatoriale qui, dans son code criminel, indique, je cite, que le viol de toute femme devrait être puni d'un emprisonnement mineur. Autre question sensible, celle du mariage. Lorsque l'on sait que les violences sont en majorité commises dans le cadre familial, il arrive que les peines soient plus légères lorsqu'il s'agit d'un mari violent. Et quand bien même ces cas seraient portés devant un tribunal, certains codes criminels exigent de la victime un certificat médical afin de porter plainte dans des régions où l'accès aux soins est parfois difficile.
Paul Lorgery, le procureur de la République en Côte d'Ivoire annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre 3 personnes ainsi que leur placement sous mandat de dépôt, et cela pour mise en danger d'autrui et abandon de déchets sanitaires à risques infectieux en dehors des espaces aménagés. C'est ce que l'on peut lire dans le communiqué qu'il a publié hier soir. Ce sont des faits qui remontent en fait à il y a 2 semaines, le dimanche 10 novembre. 2 fœtus ainsi que des déchets médicaux avaient été retrouvés dans une benne à ordures de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. La police avait alors trouvé des fiches estampillées de 2 hôpitaux universitaires de la ville.
RFI.
Il est 6h37 à Paris, même heure à Brazzaville. Le Congo, où les problèmes techniques de la raffinerie nationale ne semblent plus être les seuls en cause pour expliquer les pénuries de carburant. Depuis plus d'un mois, la capitale est particulièrement touchée par ce manque d'essence. Les files d'attente s'étirent pendant des heures devant les stations-service. Et le gouvernement met en cause désormais les revendeurs à la sauvette, que les Congolais appellent les Kadhafi, et qui seraient même organisés en réseau mafieux. Ce sont les termes de Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement, qui revendique désormais la force publique contre ces trafiquants.
Je soupçonne, sans être un policier, que cette pénurie est volontairement organisée par un certain nombre de réseaux mafieux. Et je crois que le gouvernement, à travers les ministères en charge des questions de sécurité, fera, et nous l'espérons cette fois-ci de manière assez brutale, la chasse à ces réseaux et le démantèlement des mafieux, des mafias, qui aujourd'hui empêchent nos compatriotes d'avoir un carburant de qualité, parce que souvent les Kadhafi coupent ce carburant pour en avoir plus de quantité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les retours qui nous sont faits en termes de qualité voient beaucoup de véhicules qui n'avaient pas de problème au niveau de leur carburateur ou de leur moteur, qui aujourd'hui, malheureusement, connaissent des dysfonctionnements, ces véhicules, auprès de pas mal de nos compatriotes, à cause de ce carburant que je qualifierais de frelaté. Donc oui, il faut que nous cassions les reins à ces réseaux mafieux.
Thierry Mungala au micro RFI de notre correspondant Loïcia Martial. Ce ne sont pas des hydrocarbures, mais ils en viennent pourtant tout droit. On continue maintenant de parler des plastiques, puisque 176 pays du monde essayent de se mettre d'accord cette semaine à Busan pour un traité contraignant, un texte qui obligerait tout le monde à prendre des mesures contre cette pollution qui n'en finit pas de croître. Des centaines de millions de tonnes de plastique finissent en déchets chaque année dans le monde. Direction pour Nouk Baloko, petit village à quelques encablures de Bangui, la capitale centrafricaine, puisque les déchets plastiques sont déjà là, autant en faire quelque chose, c'est ce que se disent les membres de Vision Plus, un groupe qui a trouvé un moyen de fondre ces déchets pour les transformer en pavés. Rolf Steff Domielleux est allé voir.
Armés de malaxeurs, de gants, de bottes et de cache-nez, les ouvriers déversent les déchets plastiques dans une cuve chauffée à 100 degrés, alimentée par un feu de bois. Avec un geste appliqué et répétitif, Élisée Bangavoulou, fondateur de cette association, présente les différents types de déchets recyclés.
On utilise les déchets plastiques de façon générale. Donc on prend les sachets d'eau, les bouteilles en plastique, les bidons, les chaises plastiques. C'est ça que nous utilisons pour la fabrication des pavés.
Le processus de fabrication est peu coûteux et comprend plusieurs étapes selon Aimé Josselin, fabricant de pavés.
Pour fabriquer les pavés, on démarre toujours par la fonte des déchets qui dure environ 45 minutes. Ensuite, on les passe au moulage pour obtenir des pâtes que nous mettons dans un moule. Et après 15 minutes, on utilise le sable pour nous permettre de démouler et d'obtenir des pavés solides.
L'engagement de l'ONG Vision Plus à réduire la pollution plastique à Bangui porte aujourd'hui des fruits.
Les déchets plastiques ne se détériorent pas, ils approvisionnent aussi le sol. On se dit qu'on a trop de salubrité de l'environnement. L'utilisation des déchets permet de faire l'assainissement de nos marchés, de nos quartiers. Et en final, nous avons un produit qu'on peut utiliser dans la construction.
Une fois produit, ces pavés sont vendus sur les marchés de la capitale. L'ONG Vision Plus compte ouvrir des succursales dans chaque région du pays pour contribuer à la protection de l'environnement. Rolf Esteve Domialeu, Bangui, RFI.
Les tout premiers travaux commencent pour le nouveau comité chargé d'écrire l'histoire générale du Niger. Début novembre, le chef de la transition, le général Tchiani, a signé un décret pour créer un groupe d'universitaires, historiens, archéologues, charge à eux de rédiger une somme, une histoire générale du Niger. Non pas qu'il n'existe rien sur le sujet, au contraire même, le premier travail de ces spécialistes, c'est de faire l'inventaire de ce qui a déjà été écrit, pour voir ensuite comment compléter et quel éclairage lui donner. Magali Lagrange, le comité rejette déjà toute suspicion d'instrumentalisation politique.
Le Togo a écrit son histoire générale, le Burkina Faso et le Sénégal aussi, alors pourquoi pas nous ? Interroge le professeur Mamoudou Djibo, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Abdou Moumouni de Niamey et rapporteur général du comité nouvellement créé. Écrire l'histoire générale du Niger, de la préhistoire à nos jours, ce projet date de plusieurs années, explique l'ancien ministre de l'enseignement supérieur de Mohamed Bazoum. Il existe déjà au Niger des textes de référence écrits par de grands historiens nigériens comme André Salifou ou Djibo Amani, mais aucun n'a embrassé l'histoire dans sa globalité, tempère Mamoudou Djibo, et il n'existe pas, dit-il, d'ouvrage sur l'histoire du Niger dans les écoles. Historiens et archéologues ont donc été conviés à une première réunion samedi dernier. Un comité doit faire l'inventaire de tout ce qui existe. Les spécialistes seront appelés à participer pour compléter et explorer des thématiques comme l'histoire des mouvements sociaux, par exemple. Des inquiétudes s'exprime toutefois, notamment concernant la période coloniale. Mamoudou Djibo s'en défend. Nous ne voulons rien effacer. Il ne s'agit pas de réviser l'histoire, mais de faire un travail scientifique pour que les Nigériens s'approprient leur passé.
Magali Lagrange à 6h43 à Niamey pour la suite de RFI Matin. Avec vous, Andréane Mellard.
Merci Edouard et à tout à l'heure. 6h43.